La deuxième édition de la semaine de célébration de la diversité sexuelle et de genre se déroulera du 31 mars au 4 avril à l'Université du Québec à Montréal. C'est organisé par les services à la réussite à la vie étudiante en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion et le groupe interfacultaire Queer UQAM. Cet événement donc constitue une occasion privilégiée pour les personnes membres des communautés de LGBTQIA+ et les personnes alliées de célébrer. Retenez bien le mot, parce qu'ils me l'ont dit tantôt avant d'aller en onde, célébrer, se rencontrer, apprendre et renforcer les liens qui unissent et définissent la grande communauté UQAMienne. Bon, je venais par l'avoir. Alors, pour parler de tout ça, je reçois Evelyne McDuff, conseillère en équité, diversité et inclusion à l'UQAM. Salut. Ah, c'est toi. Salut.
Bonjour.
J'ai encore inverti les deux personnes. Ça, c'est l'âge, hein? Puis je suis vieux. Et Sophie Dansereau, qui est conseillère à l'accueil et à l'intégration au bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante à l'UQAM. Bienvenue à toutes les deux. On utilise quel pronom et quel accord?
IL ou elle, pronom neutre ou féminin, s'il vous plaît.
Parfait. Et toi?
Moi, à elle.
Oui.
Ah oui, Sophie. À elle et pronom, accord neutre et féminin aussi.
Bon, faut savoir qu'on est vraiment dans une drôle d'époque, hein. On a un vent très intolérant qui souffle du sud, donc des États-Unis. Ça se déroule dans ce contexte-là. Mais j'aimerais savoir comment est venue l'idée d'organiser une semaine de la célébration, c'est quand même votre deuxième. Comment c'est arrivé tout ça?
Oui, c'est monté d'un appel à projet du gouvernement provincial pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Donc, l'année passée, on a eu la subvention, puis on a monté la semaine, on a fait des activités à peu près au même moment dans la session. Puis là, cette année, on n'a plus de subvention, mais le service à la réussite, à la vie étudiante, ont décidé de maintenir la semaine, puis de poursuivre ça à travers les années. Donc, on est très heureux que ça se poursuive de ce côté-là.
Alors, depuis sa création en 1969, donc on parle de l'UQAM, les valeurs associées à l'équité, la diversité et l'inclusion, ça, ce sont des mots bannis aux États-Unis, sont au cœur de la mission de l'organisme, donc de l'université. Comment ça se traduit dans votre mission à vous?
Oui, de mon côté, au vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, moi, mon mandat, c'est essentiellement d'accompagner les chercheurs dans l'implantation de mesures EDI là, dans le cadre de leur recherche. Mais bon, on est deux conseillères EDI pour l'UQAM au complet, donc c'est sûr qu'on aide là, beaucoup.
Vous chômez pas.
On chôme pas, effectivement. Ouais. On a beaucoup de pain sur la planche. On a le bonheur d'avoir une direction. Le recteur Stéphane Palage là, qui milite beaucoup là, pour l'accessibilité là, des études en français. Donc, pour nous, c'est un facteur de réussite qui est majeure, là, donc d'avoir des gens à la direction pour qui ces valeurs-là de l'EDI, de l'inclusion, c'est essentiel. Puis on sait que notre communauté, en fait, on a une très belle diversité à l'UQAM, on est très chanceux. Mm-hmm. Et effectivement, comme vous mentionnez, c'est dans l'ADN de l'UQAM.
C'est une université woke, là, comme diraient certains. Vous me permettez la blague, s'il vous
plaît. Absolument. Absolument. Moi, quand on me dit que je suis woke, je le prends comme un compliment.
Mais pourquoi c'est important de maintenir encore et toujours ces liens avec l'EDI?
Oui, c'est une excellente question. En fait, on le sait au niveau de la recherche, on le sait que d'avoir une variété de cerveaux autour de la table, une variété de situations, on va avoir une recherche qui va être plus performante, plus innovante. Mais outre ça, ben, l'UQAM, c'est quoi? C'est un milieu de vie, c'est un milieu d'études. Notre mission fondamentale, c'est l'avancement de la connaissance. Mm-hmm. Puis pour l'avancement de la connaissance, qu'est-ce qu'on veut? Bien, on veut le plus de voix diversifiées autour de la table. On va privilégier ces mesures-là pour que toutes les personnes, autant au niveau des personnes employées, parce qu'on est quand même beaucoup à l'UQAM, pas juste des profs, mais il y a des employés aussi. Donc, autant au niveau des mesures pour les gens qui travaillent que les gens qui étudient, bien, que tout le monde se sente à l'aise, respecté, puis que tout le monde soit capable de développer son plein potentiel. Essentiellement, c'est ça les mesures EDI.
Alors, pourquoi avoir choisi de vous démarquer du mois des fiertés, qui est évidemment le mois de juin? Vous faites ça au mois de mars, mm-hmm. avril. Pourquoi?
C'est sûr que ça va avec le calendrier universitaire.
On s'en doute bien, oui.
Oui, c'est ça. Juin, où il n'y a pas grand monde à l'UQAM. Mais on a regardé le calendrier universitaire au grand complet, puis on a choisi le 31 mars de se tourner autour de cette journée-là. Parce que c'est la journée de la visibilité trans. Donc, c'est important pour nous.
Ah, ben oui, c'est vrai. On souligne ça aussi à l'heure où l'arc-en-ciel se lève lundi prochain.
Mm-hmm, ouais.
Vous savez ce qui va être à l'horaire la semaine prochaine. Parlons de la programmation. Il se passe quoi?
Il se passe beaucoup de choses. Il y a de quoi tous les jours, surtout sur les heures du midi, qui est à 12h30 à l'UQAM. Tous les cours finissent à peu près à cette heure-là.
Puis c'est donc tellement central, fait que même si quelqu'un qui n'est pas enseignant ou étudiant peut se rendre facilement à l'UQAM par le métro.
Bien, exactement, c'est ça. C'est dans ces eaux-là. Puis ça commence avec une conférence d'ouverture d'Annie Pullens sans façon qui va parler de déconstruire la désinformation autour de l'affirmation de genre pour les personnes trans et les jeunes, surtout mineurs, trans et non-binaires. Mm. On va avoir des panels de discussion aussi portés surtout par des personnes étudiantes avec le groupe Queer UQAM qui participe à toute la programmation, qui va parler du vécu intersectionnel queer dans différents aspects, que ce soit racisé ou
est-ce que dans la diversité. Je sais ce que c'est, je vais te poser la question, parce que beaucoup de gens accrochent sur le mot intersectionnel, qui n'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
La vision de l'intersectionnalité, c'est surtout de vivre à la jonction de plusieurs identités. Donc, de vivre l'oppression par plusieurs endroits.
D'être une personne racisée, queer et peut-être même handicapée, on se retrouve avec triplement, donc, ostracisé ou marginalisé.
Oui, exactement. Donc, c'était pour ça que nous, c'était important de visibiliser ces enjeux-là.
Oui.
Puis aussi, de faire porter les voix qui sont le plus opprimées, donc, puis le plus silencieuses dans le discours public, là.
Excuse-moi, je t'avais interrompu. Il y avait d'autres choses que tu voulais dire sur la programmation?
Il y a d'autres activités. Il y a des ateliers aussi sur qui est avec le comité de soutien aux parents étudiants. On fait une formation sur comment accueillir le coming out de son enfant. On a invité aussi le Réseau des lesbiennes du Québec à présenter leurs recherches sur les espaces lesbo-queer. Mm-hmm. Et on a des ateliers sur la bispiritualité. Puis aussi, la fin de la semaine, on va le célébrer avec une soirée de clôture, avec un micro ouvert, puis une soirée de la recherche, de la création queer et étudiante.
Bon, on va essayer d'aller voir ça tous les jours si on est capable. J'aimerais aussi parler de l'annonce du lancement d'un groupe ressources.
Oui.
Explique-moi ça.
Oui, donc les groupes ressources, en fait, ce sont des regroupements de personnes qui ont des éléments identitaires en commun. Donc, dans ce cas-là, c'est nos collègues
LGBTQIA+.
Je dis 2S d'habitude, fait que là, j'étais partie sur...
Ah oui, nous, on l'a francisé ici,
oui,
avec comme le gouvernement fédéral. Ouais.
Oui, c'est ça, exact. Ouais. Voilà, les groupes ressources, en fait, c'est juste un espace qu'on veut sécurisant, donc des gens qui vivent les mêmes enjeux. Les gens vont amener leur lunch, on va manger des cupcakes, puis on va jaser, puis on va être capable là, de tisser des liens, puis renforcer là, cet esprit de communauté-là qui est un peu mis à mal dernièrement.
Je pense que les gens ont besoin de se trouver un espace qui est sain, qui est bienveillant, et de se trouver aussi des raisons de se célébrer.
Absolument. Ouais, c'est exactement ça qu'on veut faire.
Ah, je vous ai fait la conclusion de l'entrevue. De toute façon, on arrive à la fin. Merci beaucoup à toi, Evelyne McDuff. Là, je vais le dire en féminin parce que je ne savais pas comment le faire en neutre. Conseillère en équité, diversité et inclusion à l'UQAM. Et aussi Sophie Dansereau, conseillère à l'accueil et à l'intégration au bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci.